Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, fripes, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer dans le dressing d'une femme dont j'adore l'élégance discrète. Sophie Douzal aime les couleurs, particulièrement le rose, la Provence, son chien Scoop, l'art de la table, le voile de coton, et aussi la Bourgogne. Elle a monté son agence de communication à l'âge de 23 ans et depuis peu, elle nous invite à suivre de très près les traces de Marcel Pagnol avec le château de ma mère. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors j'ai fait un gros résumé, on passe de la Bourgogne à la Provence et j'ai oublié l'Argentine.
Ouais, absolument.
Est-ce que tu peux nous parler de tes origines ?
Écoute, mes origines, j'ai un père très français qui est bourguignon, qui fait du vin en Bourgogne, enfin qui faisait du vin en Bourgogne depuis plein de générations, donc vraiment français, et une mère argentine qui est partie d'Argentine très tôt, mais qui nous a quand même transmis cette culture et donc souvent, alors je suis française et je me sens française, mais je me sens surtout latine. Mmh. Et ça vient de là.
Bah, tu as les yeux, une latine.
Oui.
Alors j'ai brune, oui, les yeux marrons, la pommade.
Il n'y a en général pas un déjeuner ou un dîner où on ne me demande pas à la fin de... Mais vous êtes de quelle origine ?
Alors, oui, c'est vrai que...
Toujours, c'est drôle, encore aujourd'hui.
Alors, c'est un petit côté Vanessa Siewart aussi, vous avez les mêmes origines.
Absolument, oui, j'aimerais bien avoir son accent. Ça, c'était mon grand regret. J'aurais adoré avoir un petit accent un peu latin, pas trop, comme, parfait comme celui de Vanessa.
Alors, tu as créé ton agence de com très jeune, à 23 ans. Ouais. Qu'est-ce qui a été le déclic ?
Le déclic, c'était certainement un problème avec l'autorité.
Ah !
Non.
Je croyais que c'était un accident de cheval, mais...
Oui, alors, en vrai, c'est ça. C'est-à-dire que mon obsession depuis toujours, je montais à cheval, mon obsession, je voulais être cavalière, je ne pensais qu'à ça, etc. Mes parents voulaient que je passe mon bac. Et j'avais le droit, après, de faire à peu près ce que je voulais. Autant d'équitation que je voulais, mais il fallait que je passe mon bac. Donc, et puis, la vie fait que... Je ne sais pas si c'est un accident de la vie, parce que finalement, ça s'est plutôt bien organisé après pour moi, même très bien. Je suis tombée de cheval avec une impossibilité totale de remonter jamais. Donc, j'ai été un peu désespérée, un petit peu, pas beaucoup. Mais mon père a eu ce truc formidable. Il m'a dit, écoute, va prendre l'air. Il se trouve qu'on a de la chance d'avoir de la famille un petit peu partout dans le monde. Et donc, j'ai fait... quand je racontais un peu mon histoire, à l'époque où j'enjolivais tout, je faisais un tour du monde, pas vraiment, mais je suis allée un peu en Argentine, un peu aux États-Unis, un peu en Asie, voilà. Et en revenant, j'avais toujours pas tellement d'idées sur ce que je voulais faire. Et des rencontres, j'ai rencontré 2-3 personnes qui m'ont dit « Mais tu sais, en fait, relations publiques, c'est génial. » Et alors, je vais vous dire la vérité, je me suis renseignée sur les écoles et j'ai découvert que l'EFAP,
L'école française
des attachés de presse ne donnait des cours que l'après-midi. Ce qui pouvait, comme j'étais une grosse fêtarde à l'époque, je pouvais sortir, me lever tard et aller à l'école. Et c'était juste le rêve. Donc, j'ai fait que 2 ans, parce que je me suis un peu fait virer, parce que je n'étais pas trop...
C'est bien.
Mais j'ai eu ma petite revanche, c'est-à-dire qu'ils m'ont rappelé pour que je donne des cours.
Ah, c'est pas mal.
Voilà. Donc, je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu ma revanche. Voilà. Et puis après, très vite... j'ai commencé un stage et quasiment le premier stage m'a gardée. Je suis rentrée dans une agence qui s'appelait Carole Braque à l'époque, qui était la grande agence, où j'ai beaucoup appris. Mais l'idée d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me donne des ordres, j'ai toujours un problème avec l'autorité. Je me suis fait virer de beaucoup d'écoles, donc j'ai décidé de monter mon agence. Et c'est parti comme ça. Et très vite, j'ai rencontré Alain Mauboussin qui m'a dit... Vous travaillez dans quelle agence ? Dans la mienne. J'avais absolument aucun client, rien du tout. Et il m'a dit, mais c'est formidable, je peux être client chez vous ? J'ai dit, écoutez, oui.
Peut-être.
Et voilà, il était mon premier client. Et comme c'était un joaillier de la Place Vendôme, tout de suite, j'ai eu derrière le Plaza Athénée. Voilà,
tu m'as dit en préparant l'émission, j'aime bien cette phrase, donc je t'ai reprise. Du luxe, je connais les acteurs, les âmes, les évolutions et les rouages.
Oui, c'est un peu prétentieux, mais ça, ah bah, ça fait... Oui, oui, non, non, mais c'est
pas
moi.
Prétentieux, non, mais c'est beau. Bah,
oui, mais c'est assez vrai. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de voir beaucoup de coulisses, beaucoup de backstage.
Tu vois encore.
Que je vois toujours et que j'aime toujours voir. C'est-à-dire que c'est, le luxe, c'est toujours quelque chose qui me... c'est vraiment mon moteur.
Qui te fascine.
Ça me fascine parce qu'il y a toujours... une histoire formidable et surtout il y a des personnages dans le luxe. Moi j'aime les personnages, alors pas que dans le luxe, j'aime les personnages dans la vie, j'aime les gens un peu extravagants, les gens qui ont fait quelque chose, qui ont les gens très drôles,
les gens qui ont un ADN.
Les gens qui ont un ADN fort. Et vraiment dans le luxe, pour avoir travaillé pendant très longtemps pour le comité Colbert, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de patrons du luxe. Et alors, tous ces patrons n'avaient pas forcément un charisme de dingue, mais derrière l'histoire de leur maison, il y avait toujours un personnage. Mmh. Et ça, ça m'a toujours fascinée. Et ça me fascine toujours.
Alors, je vais quand même te poser une question qui va paraître très, très bête, mais qui va peut-être te paraître très bête. Qu'est-ce que le luxe pour toi ? Allez, vous avez 4 heures.
Non, alors, je vais... Alors, bon, oui, ça peut être plein de choses, mais ça se résume en une phrase que m'avait dit un jour Guillaume de Seine, qui est un des patrons d'Hermès. Je lui avais dit, mais c'est quoi ? Alors, je reprends sa formule, je lui ai dit, mais pour toi, c'est quoi le luxe ? Il m'avait dit, le luxe, c'est quelque chose qui se répare. Oh. Et c'est tellement vrai. C'est-à-dire, c'est forcément quelque chose que l'on garde, quelque chose qui crée une émotion. Et du coup, quelque chose qui se répare, ça veut tout dire derrière. Mmh. Voilà, j'aimais bien cette définition du luxe.
Est-ce que tu suis la mode ?
Oui. Je ne suis pas une obsessionnelle parce que je sais exactement ce qui me va. Il y a ce que j'aimerais m'acheter, ce que je peux m'acheter, mais je sais ce qui me va. Mais ça m'amuse toujours beaucoup de regarder le spécial mode, de voir quels sont les accessoires, quelles sont les couleurs, etc. En revanche, je ne suis pas une fashionista dans le sens où je ne porte pas absolument tout ce qui est dans l'air du temps du moment.
Ouais, tout le hit bag, tout ce qui est hit,
c'est presque répulsif pour moi, le hit du moment qui va forcément se démoder 3 mois plus tard est presque répulsif.
C'est répulsif parce que ça va se démoder ou...
Non, c'est parce qu'en fait, j'aime bien être un peu différente et j'ai pas envie, quand j'arrive dans une soirée, d'avoir le sac, les chaussures et la robe que 3 filles ont. Voilà.
Quel est ton style ?
C'est mon style. Alors, il est
très coloré, si je puis me permettre. Alors, à chaque fois que je te vois,
oui,
hyper coloré.
J'adore les couleurs en été. C'est-à-dire que comme je se disais au départ, je suis latine, j'hiberne. Donc du mois de novembre à fin février, je n'ai pas le même style qu'au reste de l'année. C'est-à-dire de début novembre à fin février, au début du printemps, je suis en bleu marine, bordeaux, gris, voilà.
Aux couleurs du temps.
Je suis aux couleurs du temps, avec des jolies matières, mais j'ai presque un uniforme. Et à partir du moment où le printemps commence à pointer le bout de son nez, alors
là,
j'ai envie que de couleurs et je porte jamais de noir.
Là, tu me disais que tu avais une obsession pour le rose.
J'ai une obsession pour le rose, enfin pour le rose et le rouge, le mix rose et rouge, très Saint-Laurent.
Très Saint-Laurent.
Je suis un peu obsédée par ça. En ce moment, enfin depuis longtemps. Et c'est vrai que je me suis acheté beaucoup de pantalons roses. Et j'aime aussi beaucoup les imprimés.
Mmh. Ce que tu, d'ailleurs, présentes très bien dans le château de ma mère.
Oui, Parce que le style provençal est fait d'imprimés, mmh. D'imprimés incroyables. Je suis tombée sur un cahier, mieux qu'un cahier d'ailleurs, un livre que ma grand-mère gardait avec des petits... On est tous un peu obsédés par les tissus. Dans ma famille, maman fait des patchwork, etc. Et ma grand-mère gardait des petits morceaux de tissus du 17e et du 18e provençaux. Oh, je ne m'inspire que de ça. Mmh. C'est-à-dire, je les épure un tout petit, enfin quand je dis je les épure, j'ai l'idée de les épurer et je les fais épurer par quelqu'un qui sait bien faire, qui est F. Kazani, qui travaille avec moi. Et c'est vrai que ces imprimés provençaux sont inouïs de modernité. Mmh. Et quand je suis en Provence, j'ai pas envie de porter des couleurs unies.
C'est la question que j'allais te poser. Donc tu pars très souvent en Provence, tu vis entre Paris et la Provence.
Ouais.
Est-ce que tu t'habilles différemment là-bas ?
Évidemment, évidemment. D'abord, je m'habille beaucoup plus cool parce que je passe ma vie dans le jardin, voilà. Mais je m'habille beaucoup plus confortable qu'à Paris. Je m'habille avec des grandes jupes, je m'habille avec... Non, je n'ai pas du tout le même look.
Parce qu'à Paris, parfois, tu te sens pas confortable.
Si, non, en fait, c'est pas ce que je
m'en dis que le confort, par l'élégance.
Je fais très attention au confort. Je n'achète plus jamais un pantalon qui n'a pas d'élastane. Alors que quand on avait 20 ans, les premiers jeans, on pouvait à peine s'asseoir. Mmh. Là, maintenant, c'est d'un confort inouï. Molly, qui est une marque que j'adore, qui était
je crois que c'est la marque qu'on cite le plus dans Chiffon, Molly.
Ah oui, mais de toute façon, c'est une marque que... Alors, quand je disais tout à l'heure, je fais très attention à ne pas avoir l'uniforme de tout le monde, à part Molly, mm-hmm. où en général, on croise, surtout quand on se balade à Saint-Germain-des-Prés, on croise forcément une ou deux filles en Molly. Elle a réussi ça. J'espère que je vais réussir ça avec la Provence.
Alors, tu m'as dit... c'est tout ce qu'on te souhaite. Mm-hmm. Tu m'as dit que là, tu as changé de look parce que tu t'es mise au vélo.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça a changé?
Ouais, pourtant, j'ai lutté, et Anne Hidalgo a raison de... j'ai acheté un vélo, alors pas un vélo électrique parce que je veux faire un peu de sport, j'en profitais pour faire un peu de sport. Et oui, du coup, la jupe un peu crayon, un peu, bon, c'est fini.
C'est fini. Les jupes bohème provençales aussi, c'est un peu dangereux.
Alors, les pantalons larges, hier soir, d'ailleurs, j'avais un pantalon large et je suis revenue me changer parce que j'ai vu au bout de la rue, en arrivant au milieu de la rue, que ça allait se prendre dans mon truc.
C'est hyper dangereux.
En tout cas, ça allait...
Il faut mettre des pinces à linge.
Alors, je ne suis pas prête à la pince à vélo tout de suite.
La pince à linge en bois,
ouais.
Ça peut être pas mal.
Ouais. Alors, je veux bien changer un peu de look, je veux bien un peu réduire mes talons, etc. La pince à linge, je ne suis pas tout de suite prête, mais je vais y venir. C'est comme le grand poncho quand il pleut, là. Je comprends quand même ma voiture. Enfin, tu vois, j'ai des trucs...
Ah oui, non, tu ne peux pas, oui.
Non. Et là, il faut que je m'occupe du casque, mais ça, c'est un autre sujet aussi.
Ce serait bien que le château de ma mère pense à faire des beaux ponchos en tissu provençaux. Ce serait top.
Oui, quoi. Oui, non, mais j'ai plein d'idées. Et surtout, j'ai des copains
pour les cyclistes,
journée qui me disent « Mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses des trucs pour les chiens, pour les... »
Oui,
oui, je vais y venir. Mais pour l'instant, c'est...
Mais les journées ne font que 24 heures.
Oui, et puis au-delà de ça, c'est une société qui a un an, qui marche bien, je le vois. Mais...
c'est un stade encore embryonnaire, on va dire ça comme ça. À quel âge as-tu trouvé ton style? Parce que tu m'as l'air d'avoir des goûts très affirmés. Est-ce qu'il y a une étape de ta vie?
Oui, c'est-à-dire que j'ai été pensionnaire pendant 10 ans en uniforme. Donc, inutile de dire que quand t'as 17 ans, j'ai quitté la pension. C'est pas que je pense que j'ai fait des milliards de fautes de goût parce que je voulais tout essayer, tout tester, tu vois. Vraiment, j'ai fait beaucoup de fautes de goût et beaucoup, je suis
partie. Est-ce que t'as un souvenir d'un fashion faux pas, justement?
Mais mille. Non, j'ai un souvenir de, je ne sais pas si tu te souviens, dans les années 90, il y avait, l'obsession, c'est ça, on n'appelait pas ça des leggings, on appelait ça des, je sais pas, maintenant on appellera ça un leggings, tu sais, le nom.
Oui, bon, je cherche.
Bon, ça va revenir. Bon. Donc j'étais obsédée par ça, j'étais toute moulée, enfin c'est d'être ignoble. Et un jour, je pars à une soirée et mon père me regarde et il me dit, ah oui, c'est une soirée sous vide.
Ah !
Et depuis ce jour-là, c'était un fashion faux pas, ça devait être ignoble. Et j'ai arrêté depuis, mais plus jamais, je pense que j'ai porté de leggings, à part quand je fais du yoga, mais sinon plus jamais. Et fashion faux pas, mais plein des...
Et encore, est-ce que ça t'arrive d'en faire maintenant ?
Alors, j'espère pas trop. Et en fait, non, parce que je prenais beaucoup de risques. Quand, tu vois, à 20 ans, voilà, je mélangeais des couleurs. Parfois, mes copains me disaient, ça pique les yeux, ton truc, quand même. Toi, on est arrivé là. Et aujourd'hui, je prends moins de risques. Et puis, je pense que je sais à peu près ce qui me plaît. Je fais ce qui me va. Pas ce qui me plaît, ce qui me va, les deux. Et je suis moins audacieuse, je pense.
Justement, quand tu me parles du regard des autres, de la vie de l'autre, est-ce que ça te touche ou pas?
Non. Non, honnêtement, non plus.
Et à l'époque,
il faut bien qu'il y ait des avantages. Oui,
de vieillir, c'est ça. J'avais une question là-dessus.
Oui. Si, quand mon mari me disait, je suis pas sûre là. Alors, bon, j'allais me changer parce que toute la soirée, sinon j'allais penser au je suis pas sûre.
Ah oui, là, ça quand même. Ouais.
Mais il me le disait très rarement, tu vois. et c'était quoi la question? J'ai oublié.
Sur la comment dirais-je, le regard des autres.
Ah, le regard des autres. Et alors aujourd'hui, plus du tout. Et parce que l'énorme avantage de vieillir, c'est que je suis sûre de moi. Enfin, j'accepte qu'on me dise que je ne trouve pas ça génial, mais si c'est justifié, si c'est un très bon copain ou une bonne copine,
ça m'arrive pas. Mais tu vois, moi, je trouve ça pas très élégant de dire ça.
Non, alors...
Dire ça à quelqu'un, j'aime ouais, c'est...
Non, alors on ne me le dit plus. Heureusement, on ne me le dit pas comme ça. Mmh. Mais si, par exemple, je dis, mais tu ne trouves pas que cette jupe, là, pour moi, elle est un peu... Si c'est une bonne copine, elle peut me dire, écoute, ça va, mais c'est vrai que je te préfère. Oui. Donc voilà. Donc ça.
C'est pas un jugement gratuit.
Non, mais je suis pas très influencée par le regard des autres. Je ne suis plus très influencée par le regard des autres. À 20 ans, on est hyper influencée par le regard des autres.
On se cherche.
Et puis on projette même des choses dans le regard des autres. aujourd'hui...
Tu t'en fiches complètement. Et à propos d'influence, influencer, que penses-tu de l'influence? Est-ce que tu te fais influencer par les influenceuses, notamment sur les réseaux sociaux ou pas du tout?
Non, non. Honnêtement, non. Non, je pique des idées. C'est-à-dire que je suis mes copines et je suis beaucoup de sites de déco. Je suis plus branchée déco, art de vivre, etc.
Tu aimes beaucoup les arts de la table.
J'adore ça. Et je suis très inspirée par ça. Si je trouve des idées de décoration de table, etc., je peux voir une idée le matin et avoir envie pour mon dîner du soir de tout changer, de faire plutôt ça, oui. La mode, non.
Donc, quand tu organises un dîner le soir, justement, tu es plus préoccupée par ta table que par
la couleur de mes sets, mes menottes, que ma tenue. Et parce que, oui, absolument.
Combien de temps tu mets pour t'habiller le matin? C'est un peu une obsession ou pas du tout?
C'est important. Je suis assez rapide. Non, je suis assez rapide. Mais je peux, en revanche, me changer trois fois.
Ah.
Parce que ça me plaît pas, parce que j'avais pensé peut-être en me couchant le soir vaguement que c'est comme ça. Alors soit il pleut et je change, mais aussi parce que ce jour-là, j'ai pas du tout envie de mettre de rouge et je veux vraiment que du bleu marine parce que je suis un peu de moins bonne humeur que j'aurais imaginé. Donc voilà. Mais la manière dont je m'habille trahit beaucoup mon humeur, souvent. Et c'est drôle parce que quand j'arrive à l'agence et que je suis toute en bleu marine un lundi matin,
oula,
en général, elles se moquent de moi en me disant oulala. Ça va être chaud aujourd'hui.
Carrément. Par contre, si t'arrives en rose et rouge...
Voilà. Mais je pense que tout le monde est un peu comme ça.
Alors, à part le legging, quel est le vêtement que tu ne porteras jamais? No way.
Le jogging, une tenue de sport. À part pour faire du sport, une tenue de sport, jamais. Mm-hmm. Tu vois, même pour sortir mon chien, j'ai quand même... je fais un minimum. Non. Après, le reste, peut-être une salopette.
Mm. Oh.
Il n'y a pas d'interdit. Alors si, aujourd'hui en vieillissant, une mini jupe non. Et voilà, des choses qui font un peu trop jeune, c'est quand je vois ma fille de 20 ans qui est là, non. Mais à part ça, non, j'ai pas d'interdit.
Quel est le vêtement qui te donne confiance en toi? Tu vois, quand tu as un rendez-vous hyper important ou peut-être pour décrocher un nouveau budget, est-ce que tu te sapes différemment?
Quand je sors le soir, honnêtement, une robe avec un imprimé de la double J en soie, etc., voilà, ça oui. Et pour un rendez-vous important, non, j'ai pas de tenue pour un rendez-vous important. En revanche, quand c'est vraiment, vraiment important pour du business, j'ai quelques tenues porte-bonheur.
Ah.
Et si j'ai un truc, j'ai notamment une robe de Vanessa Seward, on en parlait. Chaque fois que je l'ai portée, il m'est arrivé un truc bien professionnellement. Donc, celle-là, tu vois, quand j'ai un petit doute ou qu'il y a un vrai enjeu, je la porte.
Et les talons? Tu te sens plus forte en talons ou pas?
Un peu, oui. Alors, ça, je porte plus de talons. Enfin, je porte plus de talons hauts. J'ai porté. Je me demande, mais quand je regarde aujourd'hui mon dressing de chaussures, mon étagère de chaussures, et que je vois les talons Louboutin ou Manolo Blahnik de 10 cm sur lesquels je me baladais dans tout Paris, je ne comprends même pas comment c'est possible.
Et qu'est-ce qui a été. Pourquoi tu as arrêté du jour au lendemain d'en porter?
Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas un peu le confinement?
Ça, d'ailleurs, le confinement, est-ce qu'il y a eu quand même l'avant et l'après-Covid? Est-ce que ça a changé ta manière? J'ai l'impression que ça a changé beaucoup de gens.
J'ai vécu tout le confinement en molly. D'ailleurs, quand je crois à Charlotte, c'est vraiment, j'ai vécu tout le confinement en molly. J'ai trouvé que c'était quand même un petit style et que c'était quand même super confortable. À partir de ce moment-là...
Tu as lâché les talons?
Oui. Alors, j'ai lâché les talons, j'ai encore des bottes, machin, mais j'ai plus du tout des talons de X centimètres. Je pense qu'au-dessus de 5 centimètres, je ne porte plus de talons. Après, est-ce que ça te donne un peu plus d'assurance? Oui, sûrement un peu, oui.
Quel est ton accessoire indispensable? L'accessoire parfait?
C'est sûrement un sac, un collier. En tout cas, c'est pas un vêtement.
Une seule pièce de ta garde-robe que tu voudrais garder?
C'est pas très original, mais c'est une robe barre de Dior.
Une robe?
Une veste barre de Dior, tu vois, un peu avec la taille appuyée, etc. Celle-là, je dois dire que je l'ai depuis longtemps. Et avec un jean, avec une... Elle m'a accompagnée dans plein d'étapes de ma vie et tout, donc je sais ça.
C'est un peu ton vêtement ADN?
Oui, c'est un peu mon vêtement ADN.
Quel conseil donnerais-tu à une femme qui te dirait « je n'ose pas mélanger les couleurs »
Mais je lui dirais, mais qu'est-ce que tu risques? En vrai, c'est que de la mode. Mm. Tu vois, tu risques quoi? Tu risques qu'on te dise, oh, c'est bizarre, bon, ok, mais tout. Et puis, ça te donne de la personnalité d'essayer. Ça. Je lui dis, mais fonce! Sauf si tu te sens vraiment mal ou vraiment inconfortable, n'y va pas. Mais sinon, oser mettre du rose avec du rouge, le risque, c'est quoi?
Que quelqu'un te fasse une remarque, peut-être, mais...
Oui, ok, mais il faut dépasser ça.
Est-ce que ça t'arrive d'arrêter des femmes dans la rue pour leur demander la marque de leurs vêtements ou t'es trop timide, peut-être?
Alors, je suis pas très timide. non, je suis pas très timide. Non, alors dans la rue, non. Mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps dans un aéroport. Je faisais la queue, voilà, et j'ai vu une fille avec un manteau parfait, qui était exactement celui que je cherchais depuis des années. Tu vois, le manteau, tu vois, moi je suis pas très grande, donc un manteau, je voudrais un manteau long, mais qui tasse pas. Mmh, voilà. Mmh. Et j'ai vu une fille qui pas très grande non plus, et je me suis dit, mais alors là, je peux pas passer à côté, donc je suis allée la voir. C'était une américaine, elle m'a dit, ah, mais c'est tellement gentil de me poser la question, etc. Je ne sais plus, donc elle a enlevé son manteau.
Ah, c'est sympa.
C'est un manteau Max Mara, bon, qui malheureusement ne font plus, mais oui, ça peut m'arriver.
Comment bien vieillir en tant que femme?
En riant à peu près un minimum de 5 minutes tous les jours. C'est que ça.
Rire de soi aussi, peut-être?
Beaucoup. Oui, beaucoup d'autodérision et s'entourer de gens gays et drôles. Moi, c'est un peu mon obsession. Ça l'a toujours été. J'ai toujours eu la chance d'avoir des... Moi, j'ai été élevée dans une famille où l'humour était une valeur cardinale. Donc après, quand tu grandis comme ça, tu t'entoures de gens qui sont... drôle, léger, pas que, mais enfin bon. Et je trouve que c'est une très bonne manière de vieillir. De toute façon, il faut avoir un peu de recul pour vieillir, un peu de second degré.
Oui, on ne peut pas arrêter la machine de toute façon.
Non.
As-tu une icône de mode?
J'en ai plusieurs, mais c'est un peu bateau, parce que j'ai à mon avis celle que tout le monde a, c'est-à-dire Jackie Kennedy, Marella Agnelli.
Ah, elle, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas citée.
Ah, oui. Ouais. The Swan. Il y a une fille que je trouve incroyablement chic, et alors pour le coup qui est jeune, c'est Béatrice Borromeo. Mm-hmm. Je trouve qu'elle est chicissime, qu'elle a une gueule folle, et qu'il n'y a plus beaucoup de filles comme ça qui sont à la fois bien dans leur époque, dans l'air du temps, etc., mais en même temps qui sont pas.
Qui ont des garde-robes
à la mode, ouais,
qui ont des garde-robes assez fortes.
Fortes et franco-italiennes, voilà.
Quelle est ta définition de l'élégance?
Alors, encore, j'ai l'impression de dire que des choses de bateau, mais c'est vraiment une attitude. Tu vois, j'avais une... Quand j'ai accouché de ma dernière fille, il y avait une... Je pense à elle, c'est marrant, je pense à ça dès qu'on parle d'élégance. Il y avait une nurse, une infirmière indienne. J'étais fascinée par son élégance, la manière dont elle ouvrait la porte de ma chambre. Donc, elle pliait des langes, elle posait un plateau, tout était joli, les mains, les cheveux, le port de tête, tu vois. Et chaque fois qu'elle rentrait, je me disais, mais cette fille est d'une élégance, mais tout en simplicité. Enfin, voilà, ça me fascinait.
Justement, tu me parles de tes filles.
Oui.
Tu as deux.
J'ai un fils et deux filles.
Deux filles.
J'ai une fille de 20 ans, enfin, qui va avoir 20 ans le mois prochain.
Bel âge.
Et j'ai une fille qui est une vraie adolescente de 13 ans, qui est toute en baggy et en trop large. Il se trouve qu'elle est ravissante, elle a de la chance, mais tout est trop large, trop grand, trop...
Est-ce que tu lui donnes des conseils, justement? Tu lui dis...
Non, mais je lui dis, c'est ignoble, c'est vraiment, tu ressembles, c'est vraiment dommage, etc. Elle me dit, oui, mais je te rappelle, maman, que tu es née au siècle dernier.
Voilà. Bah, bonne réponse.
Donc, vraiment, elle a raison. Et je fais attention de ne pas trop la braquer, parce que je pense que si je la braque, ça va être contre-productif. Donc, j'ai vu ma fille aînée passer par des périodes horribles, et maintenant, elle a vraiment un style. Elle a un style très à elle, très pointu et tout, qui n'est pas tout à fait le mien, mais ce qui me fait plaisir, c'est que je sens quand même une petite influence. Et donc, je sais que ça passe. Mmh. Mais franchement, quand je la vois partir à l'école avec son jean, alors elle met mes jeans fermé avec un élastique qui est noué sur le côté, des grosses... Elles ont toutes les mêmes... En fait, elles ont déjà un uniforme. Des grosses baskets avec un immonde et un gros sweat qui fait qu'elle, en fait, tu vois, elle est un petit porte-manteau parce qu'elle est toute fine dans un gros truc qui...
Elle est noyée dans ses vêtements.
Ah ! Bon, après, je pense que ça va passer.
Oui. Ce qu'on lui souhaite.
Ouais. Et elle n'a pas d'icône de mode parce que...
Merci infiniment, Sophie.
Mais non, mais j'étais ravie.
Et
30 secondes, c'est génial.
C'est une conversation. Ouais. Merci à toi, merci à vous, chers auditeurs. Et je vous dis la semaine prochaine. Et en attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Et surtout, allez faire un tour du côté du château de ma mère. À bientôt. Merci.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.